France Info.
La Haute-Savoie pour ce risque d'avalanche. La situation donc est dramatique. Ça s'arrange en fin de semaine. On a une petite fenêtre là de temps sec qui se profile.
En tout cas, il faut rester très vigilant dans de nombreuses zones du pays. Merci beaucoup Christine Peña et merci à tous d'écouter France Info. Il est 5h. Et à la une de ce 17 février, 5 suspects identifiés après la mort d'un militant identitaire passé à tabac à Lyon la semaine dernière. Le détail de leur profil dans un instant. À la une aussi, les crues qui menacent toujours, nous en parlions. Nous serons sur la côte bretonne où les marées font craindre le pire. Une nouveauté, l'assurance est désormais systématiquement contrôlée pour les automobilistes qui sont flashés par les radars pour des grands excès de vitesse. Un hockeyeur français exclu aux Jeux Olympiques pour s'être bagarré sur la glace. Et puis la mort d'une légende hollywoodienne, l'acteur Robert Duvall, à l'âge de 95 ans. Pour le moment, aucune interpellation n'a été annoncée. Mais 5 jours après le passage à tabac de Quentin Derenque, militant identitaire à Lyon, on en sait désormais plus sur les suspects. Hier, le procureur a expliqué que l'étudiant a été agressé par 6 personnes. Et le profil de 5 d'entre eux se précise, Aurélien Tirard.
Sur les 6 agresseurs de Quentin Derenque, 5 sont désormais identifiés. Tous les 5 sont connus des services de police, pour certains d'entre eux, fichiers S, et cela pour avoir appartenu au groupe d'extrême gauche de la Jeune Garde. D'autres sont connus de la justice pour des vols ou des violences. Ces 5 suspects ont été identifiés alors qu'ils appartenaient à un groupe d'une 20aine de personnes masquées, cagoulées, venues en découdre jeudi avec le groupe de 7 jeunes femmes appartenant au collectif identitaire Némésis et à leurs amis venus en renfort, parmi les se trouvait la victime Quentin Derenque. Hier, lors de sa conférence de presse, le procureur de Lyon l'a indiqué. De nombreuses vidéos sont exploitées, 15aine de témoins entendus, afin d'identifier avec précision les auteurs du meurtre avant de les arrêter. L'enquête est désormais ouverte pour homicide volontaire.
Merci beaucoup Aurélien Tirard. Et dans 10 minutes, la parole sur France Info à des militants identitaires de Lyon qui disent vivre dans la peur désormais. Et puis la parole aussi à des militants insoumis qui refuse d'être associé à la violence qui a mené à la mort de Quentin Derenque. Toujours aucun répit pour la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire. Ce sont les 3 départements toujours en rouge sur la carte des vigilances face à l'épisode de crue inédit qui touche une bonne partie du pays. 12 autres départements de la moitié ouest sont aussi en orange. Alors ce n'est pas le cas, peut-être pas encore pour les Côtes d'Armor où l'on redoute tout de même des inondations à Plancoëtte. Le niveau de l'Arguenon était au plus haut hier, Johan Moison. Alors face aux nouvelles pluies qui sont annoncées aux grandes marées, les habitants et les élus se préparent.
Oui, les services techniques sont venus installer des protections devant les maisons et commerces les plus exposés, comme ici, dans le salon de coiffure de Mélanie. Pour entrer, les clients doivent enjamber une barrière.
Ouais, 1 mètre à grimper. Pour ça, j'ai mon petit marchepied, c'est moins pire. Que ce soit les tout petits ou des personnes de 70-80 ans, on s'en sort. Je prends que les sportifs.
Derrière l'humour, l'inquiétude est bien réelle. L'eau est au niveau de la route devant le salon de coiffure.
Les nuits sont courtes, on ne dort pas beaucoup.
Dans son bar, Ariane a surélevé tous ses meubles. La situation fait ressurgir le douloureux souvenir des inondations de 2014.
Vous aviez eu beaucoup d'eau ?
1 mètre d'eau. Plus de plomberie, plus d'électricité, plus de frigo. C'était tout à été refait. Vous êtes marqué à vie avec ça. Hein.
Un peu plus haut, à l'hôtel de ville, le maire Patrick Barrault allait très tiré. Il réunit la cellule de crise 2 fois par jour pour analyser l'évolution de la pluviométrie, le niveau du fleuve et la capacité de stockage du barrage de Plévin, situé dans la commune voisine.
C'est difficile de faire des pronostics. Tout dépendra de la pluviométrie. Et actuellement, on procède à des lâchers très très importants de manière à vider le barrage afin d'avoir une capacité de stockage au moment où la marée arrivera et on devra fermer le barrage de Plévin. Mais on n'est pas tout à fait satisfait des résultats. On n'a pas suffisamment de capacité de stockage.
Environ 150 foyers sont exposés au risque d'inondation ici à Plancoëtte.
Reportage ici Armorique, signé Johan Moison pour France Info. La peine de François Fillon est désormais définitive. L'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle de 2017 s'est désisté de son pourvoi en cassation. Il est donc condamné à 4 ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour les emploi fictif de son épouse Pénélope à l'Assemblée nationale. Les radars automatiques sur les routes ont désormais une nouvelle corde à leur arc. En plus de mesurer les excès de vitesse, ils vont à partir d'aujourd'hui être capables de détecter si les voitures flashées sont bien assurées. On estime à l'heure actuelle que 500 000 conducteurs circulent en France sans assurance. Alors une nuance tout de même, cette détection elle ne concerne que les automobilistes qui commettent des grands excès de vitesse, à savoir 50 km/h ou plus au-dessus de la limite autorisée. Et ça, ça ne convainc pas Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes. Il voudrait, lui, que la mesure concerne tous les véhicules flashés.
C'est une excellente chose. Mais on a envie de dire, pourquoi pas tout le monde ?
L'assurance, elle est obligatoire. Et ces automobilistes qui roulent sans assurance, on les trouve dans les refus d'obtempérer, dans les délits de fuite. On les trouve surreprésentés dans les accidents. Ils ont deux fois plus d'accidents que les autres usagers. Donc, on a juste envie de dire que pour une fois que les radars servent à quelque chose, on va regarder si quelqu'un a son assurance uniquement s'il est en délit de grand excès de vitesse. Ça n'a pas de sens. Donc, utilisons les radars pour vraiment lutter contre les personnes qui roulent sans assurance. Et en contrepartie, faisons comme dans tous les autres pays où on a des meilleurs résultats de sécurité routière qu'en France, arrêtons de matraquer les automobilistes qui, en bas de la descente, n'ont pas vu le radar et sont passés 2 km/h au-dessus de la limitation. Ça, ça n'a strictement aucun sens.
Pierre Chasseret, le porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Le compteur des médailles à Calais pour la France aux Jeux Olympiques de Milan Cortina. Toujours 15 médailles, aucune de plus hier et aujourd'hui à surveiller. Le biathlon en début d'après-midi, le relais 4 x 7,5 km hommes avec une chance pour l'équipe tricolore. On suivra tout cela sur France Info, tout comme le hockey avec une victoire obligatoire pour les Français à la mi-journée après 3 défaites en 3 matchs. C'est l'heure des barrages face à l'Allemagne, Xavier Monferrand.
Les valises ont beau être déjà pleines, 21 buts encaissés en 3 matchs, les Bleus s'y attendaient, il fallait faire le dos rond avant ce match de barrage. Le plan reste le même pour le capitaine Pierre-Edouard Belmar.
Ça change absolument rien au fait que nous on est venus en se disant il va y avoir 3 matchs très difficiles et un 4e encore plus difficile. On a un match pour un quart, c'est tout, il va falloir qu'on y aille avec les cagoules.
Face à l'Allemagne et ses 8 joueurs de NHL, la grande ligue nord-américaine, les Bleus ne partent pas favoris, mais peu importe, les vrais JO commencent pour l'attaquant Sacha Treille.
Bien sûr, au final c'était presque pour nous comme une pré-saison et maintenant on rentre dans la saison. À nous de ne pas se louper, on sait que ça ne va pas être simple non plus. Hein. Mais en tout cas, on a à cœur d'essayer et se donner le maximum de chances pour arriver en quart de finale des Jeux Olympiques. Ce serait quand même une phrase qu'on n'aurait jamais osé dire il y a quelques temps.
Et ce barrage, le sélectionneur Yorick Trey travaille dessus depuis des mois déjà.
On est venu pour ce 4e match et on a une chance aujourd'hui sur un match de rester dans le tournoi. On prépare ce 4e match depuis longtemps. Ce sera le match le plus important et les gars dans ce vestiaire vont tout donner pour ce dernier match. Ça, c'est une certitude. J'espère que ce ne sera pas le dernier, évidemment.
Et si la France réalise l'exploit de sortir l'Allemagne, elle trouvera la Slovaquie sur sa route en quart de finale.
Merci beaucoup Xavier Monferrand et les hockeyeurs français. Eh bien, ils feront sans Pierre Crinon, l'un de leurs joueurs, qui s'est bagarré dimanche avec un adversaire canadien sur la glace. La Fédération française a donc décidé de l'exclure. Alors, les bagarres, elles sont très fréquentes hein, hockey en championnat, mais elles sont formellement interdites au JO. Ce n'est pas vraiment l'esprit olympique. Et puis, Hollywood est en deuil. L'un de ses acteurs mythiques nous a quittés hier. Robert Duvall, 95 ans, l'une des filmographies les plus impressionnantes du cinéma américain. Loïc Piala a marqué dans les années 70, notamment par 2 rôles inoubliables.
Il y a bien sûr ce rôle de Tom Hagen. En 1972, Robert Duvall incarne l'avocat de la famille Corleone dans Le Parrain, celui qui tente de raisonner l'impulsif Sonny Corleone, joué par James Caan.
I'm going to decide what's going to
be. All right, but your war's costing us a lot of money. Nothing's coming in, we can't do business.
Well, neither can they.
7 ans plus tard, Francis Ford Coppola lui offre un autre rôle marquant, le lieutenant-colonel Kilgore, dans Apocalypse Now, avec l'une des répliques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. J'aime l'odeur du napalm au petit matin.
I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb.
Mais la carrière de l'ancien colocataire de Dustin Hoffman s'est étendue bien au-delà de ces 2 chefs-d'œuvre. Il a collaboré avec John Wayne, Steve McQueen, George Lucas, Sidney Lumet, Robert Altman ou encore Sam Peckinpah, Volker Schlöndorff, Tom Cruise ou Nicolas Cage. Il a gagné un Oscar du meilleur acteur pour son rôle de chanteur country fatigué dans Tendre Bonheur en 1984.
Let me know if you're staying behind this A7. Otherwise I'll be gone in the morning.
Second rôle de haut niveau sur grand écran, Duvall a aussi incarné Eisenhower et Staline à la télévision, en plus de réaliser 4 films de fiction, dont Le Prédicateur, il en était le héros, un pasteur. Le film lui avait valu une 7e nomination aux Oscars en 1998. 60 ans d'une des carrières les plus respectées et admirées d'Hollywood.
La vie de Robert Duvall, retracée par Loïc Piala, le correspondant à Hollywood de France Info. Alors après Le Parrain, voilà la marraine de la météo, Christine Peña. Et Christine, pas d'amélioration avant la fin de la semaine.
Mais encore non, les pluies, oui, les pluies restent fréquentes hein, sur le sud-ouest en raison de ce blocage. D'ailleurs, au niveau des Pyrénées, vous savez qu'ils retiennent les nuages et ils donnent de la neige en montagne, des pluies de nouveau sur le sud-ouest. Elles sont assez continues, elles ne sont pas encore très importantes, très soutenues. Même phénomène à l'est, hein, avec les montagnes des Alpes notamment, le relief qui bloque les nuages donneront encore de la neige et des pluies sur le Piémont, mais de la neige dès 500 mètres d'altitude. Sur la plupart des autres régions, le temps sera sec, avec quelques éclaircies aujourd'hui qui seront plus belles. Plus on s'approche de la Méditerranée, et même vers le nord, hein, vers les Hauts-de-France, ça s'éclaircit. Sur Paris aussi, on aura une belle journée finalement. Malheureusement, ça ne tient pas. On a d'autres pluies qui reviennent assez vite par la Bretagne dès aujourd'hui. Il va falloir tenir effectivement jusqu'à vendredi pour voir le ciel enfin s'éclaircir pour de bon.
Merci beaucoup Christine Peña. 5h10.
L'info sur les assistants vocaux, c'est France Info.
17h45.
L'info en 1 minute, 6h21.
Et à la une donc à midi 21.
À tout moment, il vous suffit de demander.
Mais France Info.
Près de 5 tonnes de cocaïne ont été saisies.
C'est l'une des conséquences des fortes pluies des derniers jours.
Sur les assistants vocaux,
France Info.
Pas juste l'info, l'info juste.
Et au programme de France Info d'ici 5h30, la mort de Quentin de Ranque, passé à tabac à Lyon la semaine dernière. Nous serons avec des militants identitaires qui disent vivre dans la peur des groupes antifascistes. Et nous serons aussi avec des militants insoumis qui, eux, refusent d'être associés à cette violence. À venir aussi la parole rare d'un des principaux personnages de l'État, Richard Ferrand, au micro de France Info, le président du Conseil constitutionnel qui s'inquiète pour l'état de droit. Mais d'abord, la colère des sinistres et des inondations.
France Info. 5h-6h, William Gecosta.
Les sinistrés des crues qui poussent les services de l'État à maintenir encore aujourd'hui trois départements vigilance rouge, le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Et justement, le long de la Garonne, eh bien, les habitants et les élus dénoncent un manque de protection, des digues fragilisées ou encore un fleuve pas assez entretenu, Farida Noir.
Dominique n'arrive pas à décrocher son regard de l'immense étendue d'eau brunâtre en face de lui.
Nous, on est bloqué, on a été obligé d'évacuer.
La petite route départementale qu'il empruntait pour rentrer chez lui dans son village de Juzic, ce n'existe plus, engloutie par la crue sous 2 mètres de hauteur.
Et voilà, quoi, on ne sait pas quand c'est qu'on va rentrer.
En regardant son village devenu inaccessible, la colère monte.
Autrefois, on draguait, si vous voulez, Garonne, et on ne drague plus Garonne. C'est-à-dire que si, mettons, on enlevait 2-3 mètres de profondeur de grave. Alors si toute cette grave serait sortie, si on creuse, on arriverait peut-être à sauver pas mal de maisons et ça coûterait beaucoup moins cher au gouvernement et à toutes ces assurances qui vont être obligées d'indemniser tout le monde.
À une quarantaine de kilomètres, la Garonne s'est aussi déversée sur le petit hameau d'Ayette. Marilyn, les bottes couvertes de boue, met à l'abri les poules qui lui restent.
Dans l'hangar, là, il y avait presque un mètre d'eau. Dans la nuit, elles se sont noyées.
Vous avez perdu combien de poules là ?
33. Maintenant, ils ne veulent pas, les écolos, mais bon, un jour ou l'autre, il faudra curer la Garonne. Elle n'est pas assez profonde, quoi. Et le problème qui se pose, c'est qu'on n'entretient pas les fossés. Tout ça, ça vient de là aussi. Hein. On a tout laissé tomber parce qu'on disait, oh, Garonne ne sortira plus. PSI, Garonne est sortie.
Et la pression de l'eau a été telle qu'à Aiguillon, où le Lot rejoint la Garonne, trois digues ont cédé sous la pression de l'eau. L'une d'elles protégeait le quartier du Lot qui s'est retrouvé submergé.
Je suis un peu énervé.
Et ici, ce qui rend furieux le maire de la commune, Christian Girardi, ce sont les bâtards d'eau, ces barrières anti-inondation retirées il y a quelques années et qui auraient pu, assure-t-il, constituer un rempart supplémentaire lorsque la digue qui protégeait ce quartier a cédé.
Lorsque la SNCF nous permettait de poser un bâtard d'eau contre la pile du pont, on protégeait totalement le quartier du Haut. Là, ce n'est plus le cas. La digue a pété, les bâtards d'eau, on ne peut plus les mettre. Voilà. C'est indépendant de notre volonté.
D'autres élus pointent, eux, du doigt le mauvais entretien des digues, dont la compétence relève des collectivités locales, mais les moyens manquent, disent-ils, pour financer les travaux. Mais du côté de l'État, la position est claire, rappelle Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique.
Les collectivités ont maintenant cette charge, mais dans le même temps, on les a autorisées à lever une taxe pour pouvoir les financer, qui est de 40 euros par personne et par an. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de collectivités n'utilisent pas au maximum cette ressource-là.
Et les autorités appellent de nouveau à la prudence. Une deuxième crue est attendue en milieu de semaine.
France Info, reportage sur les berges de la Garonne, signé Farida Noir et Hélène Langlois. Cinq suspects ont donc été identifiés après la mort de Quentin Derenque à Lyon. Hier, le procureur de la République a annoncé une enquête pour homicide volontaire après le passage à tabac du militant identitaire. Pour l'heure, aucune interpellation n'a été annoncée. Julie-Marie Lecomte, vous êtes l'envoyée spéciale de France Info à Lyon, où la jeunesse identitaire prépare samedi un grand rassemblement. Et vous avez rencontré les organisateurs dans des conditions un peu particulières.
Eh bien, nous avons fait cette interview enfermée dans une voiture et non dans le café où nous avions rendez-vous. Il a fallu quitter la place Bellecour quand ils m'ont expliqué avoir repéré une militante antifasciste.
On sait qu'elle était présente à l'agression de Quentin. On la voit sur la vidéo participer au lynchage de Quentin et des deux autres.
Cette jeune femme qui se sent menacée, c'est Aliette Espieux, l'une des figures du mouvement Pro-Vie, opposée à l'avortement et à l'euthanasie.
Je suis quand même assez surprise de voir cette jeune fille en train de tourner autour pour notamment porter atteinte à ma sécurité. Les Lyonnais, on a peur aujourd'hui. Enfin, il y a un climat de crainte, de peur constante. Enfin, c'est impressionnant.
La violence a atteint un tel niveau qu'une fois qu'ils ont passé ce cap-là, justement, ils n'ont plus rien à perdre.
Lui est responsable de la cocarde étudiante à Lyon, syndicat classé à l'extrême droite. Il s'appelle Clément Schertz.
Tout le monde est tendu, oui, tout le monde sait de quoi ils sont capables maintenant. Maintenant, c'est quoi l'étape prochaine? Est-ce qu'ils vont être condamnés ou est-ce qu'ils vont encore être laissés tranquilles par la justice pour une durée indéterminée?
Et ils expliquent que c'est pour ça, réclamer justice, qu'ils veulent ce rassemblement samedi.
L'hommage va peut-être permettre à certaines personnes de manifester leur colère et leur désir de justice. Après, s'il n'y a pas de justice qui est faite, en tout cas à temps par la justice, ou si la justice est rendue impossible à cause du délai pris par la justice, on passera de la colère à la vengeance. On voit en fait dans toutes les différentes villes de France le nombre de jeunes qui se sont sentis bouleversés et concernés par la mort de ce jeune homme. Si demain, cette colère n'est pas entendue, le gouvernement prend un risque énorme.
Des menaces de mort, une dizaine de permanences de la France insoumise dégradée, la violence, eux, ne la voient que dans le camp d'en face.
On va se détendre deux secondes. Monsieur Mélenchon, non, vous n'êtes pas agressé par des pots de peinture. Faut arrêter, franchement. Je trouve ça extrêmement indécent. Si ces jeunes-là qui ont fait ça avaient voulu être violents, ils l'auraient fait.
On n'est pas pour justement cette spirale infernale où en fait tout le monde prône la violence ou arrêter ce cercle de la violence inutile.
Et pour la marche de samedi, il demande très officiellement aux participants de se montrer responsables et dignes.
France Info reportage a signé Julie-Marie Lecomte à Lyon. Alors après la mort de Quentin Derenque en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, le gouvernement a mis en cause l'ultra-gauche. La porte-parole de l'exécutif a même parlé de responsabilité morale des insoumis dans le climat de violence, accusation reprise par certains aussi à droite et à l'extrême droite. Bonjour Elia Bergel.
Bonjour à tous.
À Roubaix, ces accusations, elles font bondir les adhérents et électeurs insoumis.
Oui, la polémique nationale s'invite dans la campagne des municipales. Ce groupe de militants LFI est en plein tractage dans un marché de Roubaix.
Personne n'a à mourir pour quelque raison que ce soit.
Aux côtés de Taïna, deux autres insoumis très perturbés par le décès de Quentin Derenque, mortellement agressé la semaine dernière à Lyon. Et même s'ils ne partagent pas du tout les idées du jeune identitaire tué, sa mort est insupportable, martèlent les deux militants.
Pour moi, un jeune, c'est l'avenir. Je suis mère de famille, j'ai un gamin qui a quasiment son âge.
Des gamins qui se tapent dessus, des gamins qui meurent. Personne ne peut se réjouir de ça. C'est impossible.
Pour une grande partie de la classe politique, de l'extrême droite aux macronistes, en passant par des membres du gouvernement, la France insoumise a une responsabilité dans ce drame, notamment car un assistant parlementaire du député LFI, Raphaël Arnaud, est accusé d'avoir frappé Quentin Derenque, ce qu'il nie formellement. Mais à Roubaix, les militants insoumis dénoncent une instrumentalisation de cette affaire.
On n'est pas là pour taper sur les gens. LFI, c'est pas ça. LFI, on est responsable.
Ah oui, on va essayer d'instrumentaliser, mais LFI, il est en rien responsable de ce type de violence. Franchement, c'est petit. Et c'est pas le moment de faire ce genre de choses.
Pour cet insoumis, se pose la question du dispositif policier au moment du drame.
Il y a eu un manque, quelque part, et c'est pas un parti politique qui peut être responsable de ça. Ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y ait pas eu d'intervention avant pour calmer tout ça.
Les insoumis de Roubaix attendent désormais que la justice fasse sereinement son travail, à l'abri des polémiques politiques, pour que les responsables de la mort de Quentin Derenque soient sanctionnés.
France Info, reportage à Roubaix, signé Elia Bergel du service politique de France Info. Dans un instant, un document, le très discret Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, se confie à France Info. Ce sera après un rappel de l'actualité de ce mardi.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous. Et à la une, la France qui n'en a pas fini avec les crues généralisées.
Trois départements sont en vigilance rouge encore ce matin. Le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne. 12 départements de la moitié ouest du pays sont en vigilance orange. Nous sommes au milieu de cet épisode. La crue va durer encore quelques jours, affirme sur France Info l'Institut Vigicru. 5 des 6 suspects ont été identifiés par la police après la mort de Quentin Derenc ce week-end à Lyon. Le militant nationaliste roué de coups. Les personnes identifiées sont toutes connues des services de police. Certaines sont fichées S pour avoir appartenu à la Jeune Garde, un collectif antifasciste dissous en juin dernier. Les patrons de Leclerc, Carrefour, Intermarché, Auchan ou encore la coopérative U vont boycotter les prochaines réunions du comité de suivi sur les négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire. Une manière de protester contre les propos de la ministre de l'Agriculture qui a accusé hier les industriels d'exercer un chantage mortifère sur les industriels. Place au premier match de barrage de la Ligue des Champions de football. Ce soir, les deux derniers clubs de Ligue 1 en lice vont s'affronter à partir de 21h. Monaco sera face au PSG. Les Parisiens sont deuxièmes du championnat, les Monégasques huitièmes.
Il est donc très discret depuis son arrivée à la tête du Conseil constitutionnel il y a un an, mais Richard Ferrand a donc accepté de parler à France Info, de vous parler. Paul Barcelone, bonjour.
Bonjour à tous.
Du service politique de France Info, vous avez donc suivi le président du Conseil constitutionnel qui s'est lancé dans une tournée pour défendre son institution et l'état de droit. Vous l'avez retrouvé au tribunal judiciaire de Créteil, près de Paris, pour une séance de questions-réponses avec des étudiants et des professionnels du droit.
C'est vrai, le décor est inhabituel. Une salle de cour d'assises.
Mesdames et messieurs les avocats.
Et dans le fauteuil du président, celui du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand.
L'état de droit, c'est l'oxygène de la démocratie qui garantit en France comme ailleurs que nous puissions tous ensemble respirer l'air de la liberté.
L'air de la liberté, saturé par ce climat étouffant. Des décisions de justice remises en cause, des menaces contre les magistrats, la dénonciation d'un prétendu gouvernement des juges. Ce cocktail-là fait de l'institution présidée par ce très proche d'Emmanuel Macron une cible de choix.
Est-ce que vous en parlez entre vous, ces critiques, ou est-ce qu'elle glisse sur vous du fait de votre indépendance ?
D'abord, toute construction humaine autorise la critique dans une démocratie. Donc cela nous condamne à souffrir en silence.
Le silence comme une règle pour vérifier la conformité des lois avec la Constitution et dernièrement censurer en partie un texte sur la justice des mineurs ou la fameuse loi Duplomb qui visait à réintroduire des pesticides interdits. Alors celui qui fut aussi président de l'Assemblée nationale en tire cet enseignement.
Les lois doivent d'abord être constitutionnelles avant d'être communicationnel.
Son avis sur le budget est attendu dans les tout prochains jours, sans oublier l'autre mission, préparer la présidentielle 2027, puisque le Conseil constitutionnel sera le garant impartial du bon déroulement du scrutin.
Et Paul, c'est justement dans la perspective de 2027 qu'Emmanuel Macron est accusé de placer ses amis à des postes stratégiques.
Et d'ailleurs, Richard Ferrand déteste qu'on lui dise qu'il a été recasé. J'ai entendu dire que c'était un poste pour politique vieillissant, relativise le président du Conseil constitutionnel. Dès lundi prochain, la toujours ministre du budget, Amélie de Montchalin, prendra, elle, ses fonctions à la Cour des comptes. Suffisant pour qu'Emmanuel Macron soit accusé de vouloir tout verrouiller pour construire des contre-pouvoirs en cas d'arrivée du Rassemblement National à l'Élysée. S'il ne le faisait pas, on lui reprocherait, lâche infidèle. La peur n'évite pas le danger, affirme Richard Ferrand, qui assure lui avoir quitté l'arène politique et tiré les conséquences de sa défaite aux élections. En l'état, son rôle est donc de rester les yeux rivés sur la Constitution, celle qui prévoit justement que le président acte de nouvelles nominations à d'autres postes stratégiques dans les prochaines semaines, comme gouverneur de la Banque de France ou vice-président du Conseil d'État.
Merci beaucoup Paul Barcelone, il est 5h23 et c'est l'heure du monde d'Élodie Suigo.
Bonjour Fida Bizri.
Bonjour.
Vous êtes actrice et scénariste. Vous avez été adoptée par le public grâce à votre rôle et votre implication aux côtés de Sylvie Balliot dans le drame Moi tout seul. C'était en 2012. Et aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du documentaire récit Green Line qui retrace 15 ans de guerre que vous avez connu et subi à Beyrouth, au Liban en tant qu'enfant. Vous avez connu ce que votre grand-mère a appelé d'ailleurs l'enfer rouge, la banalisation de la mort. Cette période vous a marqué à vie, vous plongeant dans un doute permanent du sens et de l'importance de rester en vie. Alors vous êtes allé rencontrer certains, des combattants, des historiens qui ont eux aussi vécu cette guerre. Pour comprendre et mettre des mots sur ce que vous avez vécu, ce film démarre sur la genèse de ce film qui parle de votre pays et de la mort. Et la première image est associée à un son qui, même derrière l'écran, nous émeut. C'est celui d'une bombe qui explose. Je voudrais que vous me racontiez comment est né ce film.
Ce film est né dans la tête de Sylvie Baliot avant de naître dans la mienne. On s'est rencontrés et elle a eu envie d'essayer de comprendre les guerres du monde un peu à travers moi. On s'est rencontrés à l'occasion d'une guerre au Liban en 2006. Je viens pas du cinéma, donc j'ai mis du temps à comprendre ce que ça signifiait, mon implication. Dans un premier temps, on parlait, donc je racontais mon enfance. Aller voir les miliciens, ce n'est venu que dans un deuxième, troisième temps.
Avec ce documentaire, on comprend évidemment mieux les choses. On est un matin de 1975, il y a une ligne verte qui coupe Beyrouth en deux, avec d'un côté les musulmans, c'est Beyrouth Ouest, avec comme tag sur les murs Israël et le mal absolu, et de l'autre, il y a les chrétiens avec des snipers qui tirent et leur slogan à certains, et chaque Libanais doit tuer un Palestinien. On comprend à quel point encore aujourd'hui, avec les événements actuels, rien n'est terminé. D'ailleurs, une femme vous l'explique, à quel moment on peut considérer que la guerre est terminée.
Tout à fait, pas que au Liban, la guerre continue, l'état de guerre continue. Faire ce travail de mémoire, c'est très difficile quand la guerre n'est pas terminée, quand sa propre guerre n'est pas terminée. Moi, peut-être, le fait d'être sortie du Liban me permet de me dire que dans toutes mes guerres, j'ai peut-être eu une pause dans laquelle j'ai pu m'engager dans ce film ou dans une réflexion. Mais quelqu'un qui vit tout le temps sous les bombes, c'est très difficile. Parce qu'en plus, ce travail, ça donne une certaine détente, ce travail de mémoire. Une fois on a nommé certaines choses, on est un peu plus rassuré, on est un peu plus en confiance. Et c'est cette confiance-là qui n'est pas productive en temps de guerre, parce qu'on est plus alerte.
Des images de cette époque apparaissent, donc des archives montrant des hommes armés longeant les bâtiments. Et le désastre apparaît avec des personnages en terre cuite. Vous apercevez une femme morte et vous vous allongez à côté d'elle en vous disant « peut-être que moi aussi, il faut que je disparaisse pour ne plus rien sentir ». C'est fou de penser ça à cet âge-là.
Vous, peut-être vous l'appelez mort, dans ma tête, je l'appelais une pause. Une pause de cette incompréhension.
Comment vous expliquez que même les adultes de votre famille, même votre grand-mère, n'arrivaient pas à mettre des mots pour vous expliquer la situation ?
J'ai beaucoup de gratitude pour mes parents et ma famille de ne pas avoir mis des mots. Même si quand j'étais petite, j'étais jalouse de mes camarades à l'école qui, eux, tous avaient une version très claire sur qui avait raison et qui avait tort. Du moment que ma famille n'était pas dans un bord précis à tout prix. C'est sûr que c'est plus compliqué à gérer, mais en grandissant, c'est plus intéressant de ne pas être d'un bord aveuglément.
Ce que ça met aussi en exergue, et c'est très important, c'est à quel point les guerres n'épargnent absolument pas les enfants qui, eux, vont devenir adultes et de ce qu'ils peuvent vivre.
À la projection du film au Liban, la première fois, il y avait les miliciens et il y en a un parmi eux qui a dit qu'il n'avait jamais pensé à la version d'un enfant de ce qui se passait. Il avait pensé à la version d'autres camps ennemis, comment eux, ils pourraient redire son geste, le redéfinir, mais il n'avait pas pensé à comment un enfant pourrait le redéfinir.
Vous gardez quoi de cette enfance alors ?
Aujourd'hui, j'ai envie de garder de la poésie. Je garde aussi que j'ai eu peur. J'ai mis longtemps à me dire que ça s'appelait de la peur. C'était plusieurs années après la guerre que j'ai appelé ça peur. La chose la plus forte que je garde du film, en tout cas, c'est que la peur, c'est un matériau vivant qui se travaille. Ce n'est pas une malédiction.
220 000 personnes sont mortes dans ce conflit, en 15 ans. L'un d'entre eux dit quelque chose de très fort et dit qu'il savait qu'il ne tirait pas des fleurs de l'amour, mais des balles qui servaient à tuer. Vous espérez quoi ? On vous voit à la fin du film dans une manifestation. Il y a à la fois de l'espoir et du désespoir. Quelle est votre vision de l'avenir ?
J'espère moins de manichéisme et plus de sensibilité et un vrai travail pour chercher des mots. Donc peut-être commencer une histoire plus intérieure, plus sur les traces, de dire ce que ça me fait.
Pour terminer, est-ce que ce documentaire vous a permis de vous alléger, de vous faire du bien ?
Absolument. Alors que je ne m'attendais pas à ça, je ne demandais pas à ce documentaire de m'alléger. Et m'a donné du vocabulaire personnel pour parler de ce que je ressentais.
Merci beaucoup, Fida Bizri, d'être passée
Merci
dans le monde.
Beaucoup.
Élodie sur France Info, Green Line de Sylvie Baliot au cinéma. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Et merci à vous, Élodie Suigo. La météo, Christine Peña, avec encore de la pluie, du vent et de la neige en montagne.
Bah oui, le cocktail toujours présent. Les pluies restent fréquentes sur le sud-ouest. D'ailleurs, en raison de ce blocage au niveau des Pyrénées, le relief retient en fait les nuages. Et même phénomène à l'est, avec les Alpes qui notamment bloquent les nuages et donneront encore de la neige sur les reliefs à partir de 500 mètres d'altitude. Alors attention au risque d'avalanche en montagne qui reste élevé. Trois départements restent en vigilance orange pour ce phénomène. Au nord des Alpes, hein, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vigilance, qu'il n'y a pas de coulée de neige, donc on fait attention également aux risques sur les Pyrénées notamment, sur la plupart des autres régions. En fait, le temps sera relativement sec. Quelques éclaircies arriveront à se développer. Elles seront un peu plus belles en approchant la Méditerranée, mais également en allant vers le nord. Malheureusement, ce temps relativement calme ne va pas durer, puisque de nouvelles pluies arriveront rapidement par la Bretagne aujourd'hui, les Pays de la Loire également, apportant de nouveaux cumuls de pluie sur ces sols saturés, sur ces cours d'eau qui débordent. Et ces pluies deviendront de nouveau soutenues sur le sud-ouest d'ici mercredi soir et jeudi, avec le vent qui devrait être également assez violent. Il va falloir tenir jusqu'à vendredi pour voir le ciel enfin s'éclaircir.
Merci beaucoup Christine Peña. À venir sur France Info d'ici 6h, une journée spéciale aujourd'hui sur les violences aux Antilles sur France Info. Ne ratez pas Le Choix en Guadeloupe, édifiant, où le taux d'homicide est deux fois plus élevé qu'à Marseille. À venir aussi les suites de l'enquête sur la mort du militant identitaire Quentin Derenck, passé à tabac à Lyon. 5 suspects ont été identifiés, certains fichés S pour leur appartenance au groupe antifasciste La Jeune Garde. Et puis l'immense succès des chansons de Charles Aznavour aux États-Unis. Tout cela après le show de Bad Bunny au Super Bowl. On vous expliquera tout dans la playlist de France Info. Merci d'être avec nous de si bonne heure. Il est 5h30 et voilà un nouveau journal.
France Info.
Nous en parlions à l'instant avec Christine Peña, l'épisode de crue, la France n'en est vraiment pas sortie. 3 départements sont toujours en vigilance rouge, le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot-et-Garonne, et une douzaine sont en orange, comme la Dordogne, où la montée des eaux menace de faire encore plus de sinistrés. À Saint-Pardoux-la-Rivière, une retraitée de 93 ans, Georgette, se retrouve coincée seule chez elle. Vous l'avez rencontrée, Marie-Astrid Guégan.
En chaussons, dans l'entrée de sa maison, Georgette voit l'eau monter jusqu'à quelques centimètres des volets verts qui encadrent sa porte.
C'est qu'elle va vite, je voudrais qu'elle s'arrête. Moi je dis, on est tellement stressé là maintenant, ça fait 8 jours que ça dure, c'est trop. Puis on n'est pas jeune quand même, hein. J'ai 93 ans quand même, hein. On a beau avoir le moral, ben je me meux moins facilement.
La rivière était déjà sortie de son lit il y a quelques jours.
Oui, mais pas comme ça, elle n'est pas montée sur la deuxième marche, mais oh, elle est plus modeste.
Heureusement, le frigo de Georgette et quelques autres meubles sont déjà surélevés. Des agents de la commune sont passés l'aider la semaine dernière.
J'aurais pu redescendre mes meubles, j'ai tout laissé, j'ai dit oh là là, chien averti craint l'eau chaude. Et ben ça veut dire que quand une fois vous avez inondé, la deuxième fois vous êtes sur vos gardes.
Et Georgette sait qu'il faut encore rester sur le qui-vive, elle sort sa main à l'extérieur.
Ah merde, il pleut. Je n'ai pas poli dans ces cas-là. On parle avec son cœur. Moi, je demande du soleil, parce que tant qu'il y a du soleil, l'eau ne monte pas.
Georgette reçoit plein de coups de fil de ses proches et de ses voisins inquiets. Elle leur dit qu'au pire, elle montera à l'étage avec du beurre et des biscottes.
Merci Marie-Astrid Guégan, ici Périgord pour France Info. Et nous allons revenir dans un instant sur cet épisode de crue qui touche toujours notre pays. Carrefour, Leclerc, Intermarché ou encore Auchan, la grande distribution décide de claquer la porte. La Fédération du commerce et de la distribution va boycotter le comité de suivi des négociations commerciale qui est prévue aujourd'hui et qui rassemble normalement les producteurs, les distributeurs et les services de l'État. Tout cela est la conséquence de propos dans la presse de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui n'a pas du tout plu à la grande distribution. Elle accuse certaines enseignes de chantage pour faire baisser les prix. C'est un phénomène inquiétant qui continue de prendre de l'ampleur. En voilà sans doute une preuve. Le nombre de signalements d'appels frauduleux téléphoniques a doublé l'année passée en France, selon l'ARCEP, le régulateur des télécoms. 30 fois plus de signalements enregistrés en 3 ans. À suivre aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Milan Cortina, des Français avec notamment en début de soirée le Freeski Big Air Homme. C'est du ski acrobatique. 2 Français sont engagés, Mathias Roche et Timothée Sivignon. Nous les suivrons sur France Info. Du football également à suivre aujourd'hui. Monaco PSG affiche du barrage aller de la Ligue des Champions ce soir au stade Louis II sur le Rocher à 21h. Après l'élimination de l'OM en phase de Ligue, ce sont donc les 2 derniers clubs de Ligue 1 qui sont en lice de la plus prestigieuse compétition de football du continent européen. Et pour le PSG, on arrive, Philippe Randé, avec tout de même une pointe de doute.
Une défaite vendredi dernier à Rennes, ajoutée à cela Ousmane Dembélé qui a pointé du doigt l'individualisme de certains de ses coéquipiers, vous obtenez un champion d'Europe qui vacille légèrement, de là à faire douter l'entraîneur parisien Luis Enrique.
C'est meilleur arriver après une victoire, c'est clair, mais on commence la vraie Champions League et on est motivé.
Face au PSG ce soir, Monaco, 8e de Ligue 1, l'entraîneur monégasque Sébastien Pocognoli ne veut pas croire à une baisse de régime des Parisiens.
Même les meilleures équipes ont des hauts et des bas. Sauf qu'au PSG, quand on perd un match, il y a une répercussion qui est totalement différente dans d'autres clubs. Mais ça, c'est dû au standing et aussi le fait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Je pense que le PSG va encore faire une grande saison.
Une grande saison du PSG, pas si sûr, selon le consultant football de Radio France, Jérôme Alonso.
L'épisode Dembélé pas anodin, ça veut dire que ce PSG va un peu moins bien, qu'il est un peu plus fragile peut-être. En cas de défaite à Monaco, attention, que les vieux démons ne ressurgissent pas.
En tout cas, ce duel 100% Ligue 1 en barrage de Ligue des Champions rappelle de bons souvenirs aux Parisiens. La saison dernière, ils avaient écrasé Brest 10-0 sur l'ensemble des deux matchs.
Merci Philippe Rendez, coup d'envoi à 21h à suivre sur France Info. Et puis le montant est faramineux. Une carte Pokémon vient de se vendre aux États-Unis aux enchères pour plus de 16 millions de dollars. La carte Pikachu Illustrator, pour ceux qui connaissent. Jusqu'à maintenant, cette carte appartenait à un YouTuber qui l'avait acheté 3 fois moins cher il y a 5 ans. Ça coûtait déjà plus de 5 millions de dollars tout de même. Merci d'écouter France Info en ce 17 février, il est 5h34.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Et revenons aux crues. 3 départements sont toujours en vigilance rouge, mais l'épisode reste généralisé dans une grande partie de la moitié ouest du pays, notamment dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, qui font partie des 12 départements toujours en vigilance orange. Au quartier Saint-Jacques, à Cognac, les riverains s'organisent pour vivre la crue. Vous les avez rencontrés pour France Info, Pierre Marsat.
Dans les rues de Boutier et Basse de Crouin, les habitants des petites maisons contiguës ont l'habitude de ces crues. En 2021, puis 2024 et maintenant 2026, la chaussée est recouverte d'environ 25 à 30 cm d'eau. Frédéric Goriot fait le vide chez elle pour éviter la catastrophe.
Moi, mon jardin, il est jusqu'à ma terrasse, c'est inondé. Je suis là depuis 2014. Mais en 2021, c'était pas rentré chez moi.
Au coin de la rue, Guillaume reste médusé devant la hauteur de l'eau sur un petit pont qui surplombe l'arrière des habitations.
Non, c'est impressionnant.
Et vous aviez jamais vu l'eau aussi haut ici?
Si, 2021, je crois. Parce que la route basse, quand elle est prise dans l'eau, c'est que ça monte sévère. Ouais.
C'est sur une barque verte que Célia Panot traîne tout ce qui devait sortir de sa maison. Il faut aller ailleurs.
Là, on est en train d'évacuer des motos qui sont en train de prendre l'eau, monter les derniers meubles. Et là, la nourriture, vu qu'on débranche les frigos, les congélateurs, on essaie de sauver ce qu'on peut, quoi. C'est pas du congelé, là, c'est du frais. Le congelé, il va aller chez un voisin.
Et là, vous allez où avec tout ça?
Chez une amie chez qui on dort. Pas inondé. Les pieds au sec et au chaud.
Un peu plus loin, Antoine Brémaud est en train de poser un bâtard d'eau haut de 64 cm pour empêcher l'eau de rentrer chez lui. Il n'est pas sûr que ça suffise.
J'espère que ça va être efficace. Je suis assez inquiet. C'est compliqué d'évaluer, de savoir jusqu'où ça va monter. Je suis menuisier, donc ça va.
Impressionnante cette crue de 2026, mais on est loin de la crue centennale de 1982 que ce riverain a connue et qui lui rappelle de mauvais souvenirs.
On n'en garde jamais des bons souvenirs, des inondations, croyez-moi. Je n'ai pas eu dans la maison, mais par contre, les voisins étaient inondés et je peux vous dire que ça n'a rien de marrant.
Et c'est en barque que les parpaings sont livrés par les agents municipaux pour surélever les meubles qui en auraient besoin.
Un reportage et ici La Rochelle de Pierre Marsat pour France Info. Alors on l'entendait, les maisons sont inondées en raison de ces crues, mais aussi des exploitations agricoles. Nous sommes désormais dans le Lot-et-Garonne à Aiguillon. On le rappelle, le département fait partie des 3 encore en vigilance rouge et les dégâts sont très importants chez Frédéric Princy, qui est éleveur et céréalier.
Jusqu'à ce que ça soit fini, on est dans l'inquiétude, oui. Tant que le redoux est pas passé avec la fonte des neiges, il risque d'y avoir encore des crues, quoi.
Alors décrivez-nous votre exploitation aujourd'hui, Frédéric Princic. Dans quel état est-elle?
Déjà, elle était en état d'avoir beaucoup d'eau avec toutes les intempéries qu'on a eues, toutes les pluies. Le Lot, parce que moi c'est le Lot qui me concerne, qui est sorti, il en a rajouté une petite couche, donc l'eau buvait plus, les fossés débordaient, tout ça. Et en remontant par les fossés, le Lot, c'est il remonte les fossés qui se jettent dedans. En remontant, ça débordait dans les bâtiments d'élevage. Excusez-moi.
On entend votre émotion, Frédéric Princic, parce que vous avez perdu votre élevage de poussins, c'est ça?
Ouais. 8000 poussins. 8000 poussins de 8 jours.
Qui ont été emportés par les eaux?
Non, ils se sont noyés dans le bâtiment. L'eau est montée et ils se sont noyés, quoi. Ils sont encore dans le bâtiment, mais ils se sont noyés, quoi.
Ça, c'est un drame, évidemment, pour vous. Et vos céréales?
Les céréales, le blé, ils baignent dans l'eau parce que les terres sont gorgées d'eau. Mais voilà, quoi.
C'est foutu ?
On verra.
C'est irrécupérable ?
Pas tout à fait encore, mais bon, on verra ça au printemps, la tête qu'il a, s'il faut ressemer quelque chose par-dessus ou pas. Mais bon, je pense que, comme beaucoup, on a du souci à se faire. Parce qu'il entraîne, quand il baigne dans l'eau, les racines, au bout d'un moment, ça s'asphyxie.
Ça veut dire que l'année 2026, ce sera une année perdue pour vous, ou vous espérez encore avoir quelques revenus ?
Peut-être pas, j'espère que ça va se refaire, mais bon, on va avoir un gros problème. Oui.
Un gros problème de trésorerie ?
À la fin de l'année, oui, si on ramasse pas de récolte, si on rentre pas de récolte, ça va impacter automatiquement. Hein. Et là, à mon avis, ça va être une grosse année difficile pour tout le monde.
Mais vous aurez probablement des aides ?
Bonne blague, c'est pas moi qu'il faut le demander, il faut demander à eux à Paris. C'est eux qui gèrent le portefeuille. L'argent magique, c'est eux, c'est pas nous. Nous, on prend ce qu'on nous donne quand on nous en donne un peu. Et avec ça, bon, ça nous permet de nous maintenir la tête hors de l'eau. Et encore, certains, même avec ça, ils ont la tête sous l'eau. Quoi.
Mais vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui, Frédéric Princic ? Est-ce que vous avez envie de tout plaquer ou alors vous êtes encore combatif et avec la passion de votre métier ?
Tout plaqué, j'ai fait plus de 40 ans, j'ai exploité pendant plus de 40 ans, c'est pas maintenant à 3-4 ans de la retraite que je vais tout lâcher. Non, je continue, je vais jusqu'au bout. C'est mon métier, je vais pas lâcher mon métier parce que j'ai un pépin dans la... Non, on en a vu d'autres des pépins, hein. Bon, moins important que cela et avec une économie beaucoup meilleure à l'époque, mais bon, maintenant c'est sûr que tout se rajoute, mais bon, c'est pas pour ça que je vais arrêter. Après, je vais faire quoi ? Je peux pas aller travailler maintenant, j'ai pas les qualifications pour aller me faire embaucher dans une usine ou tout comme ça. Donc non, je reste agriculteur. Mon grand-père, mon père, moi, voilà quoi.
Frédéric Princic, éleveur et céréalier du Lot-et-Garonne, sinistré de ces crues qui touchent une bonne partie du pays. Il répondait aux questions France Info de Céline Baydarcourt. Quel avenir pour les orques et les dauphins du Marineland d'Antibes ? Le premier comité de pilotage était organisé hier entre le ministère de la Transition écologique et les acteurs du dossier. Tout cela, on le rappelle, un an après la fermeture du parc marin emblématique des Alpes-Maritimes. Alors pour le moment, le sort des orques est incertain. En revanche, les dauphins, eux, seront bien transférés aux eaux de Beauval qui se trouvent dans le Loir-et-Cher. Mais ça ne plaît pas du tout à l'association de défense du bien-être animal One Voice. Muriel Arnal et sa présidente fondatrice, elle est opposée à la création d'un delphinarium à Beauval.
Pour les dauphins, une grande inquiétude, une grande réprobation. Nous préparons à lancer une nouvelle campagne. Nous avions empêché Beauval en 2016 d'avoir son delphinarium et il est hors de question qu'alors que dans toute l'Europe, les delphinariums ferment, et alors que la société se tourne maintenant vers la nature, on ait un nouveau delphinarium et que ce soit en France. Si c'est pour envoyer les orques et les dauphins vers d'autres delphinariums, autant qu'ils restent à Marineland. Et c'est le message que nous porterons parce que à Beauval, il y aura de la reproduction, donc de nouveaux dauphins à naître pour une vie d'enfermement dans des bassins qui seront habillés jolis, d'accord ? Mais ça n'est pas la mer. Il y a des sanctuaires en mer. Un va ouvrir dans 3 mois et c'est la solution que nous voulons pour les dauphins.
Le zooparc de Beauval doit présenter une charte d'engagement qui prévoit de ne pas recourir à l'insémination artificielle et de bloquer la reproduction à court et moyen terme. Une charte qui prévoit aussi un accompagnement possible vers des sanctuaires si certains dauphins sont rejetés socialement. Et je précise que cette ouverture du bassin de Beauval est prévue au printemps 2027. Malgré ces engagements, ça vous pose problème ?
Absolument. On nous a remis la charte. Nous étions là avec nos vétérinaires spécialistes qui ont travaillé d'ailleurs en delphinarium par le passé. Et c'est inadmissible de laisser la porte à la reproduction. Parce que ça veut dire qu'on repart sur les mêmes problèmes. On a décidé de faire avancer Marineland et Planète Sauvage. Le public ne veut plus de ces spectacles et on recommence la même chose. On se retrouve dans une situation qui est extrêmement inquiétante parce que toutes ces années à faire campagne et à voir le public se détourner de cette captivité pour nous proposer encore une fois cette solution. Je reviens d'Italie. la semaine dernière, un magnifique projet très sérieux, scientifique, va ouvrir au mois de juin avec les premiers dauphins. Ce sanctuaire, donc ce bras de mer fermé avec tous les soins possibles sur 7 hectares, est duplicable très facilement et pas très cher à mettre en place. Il suffit d'avoir la volonté politique.
La présidente fondatrice de l'association One Voice de défense du bien-être animal, Muriel Arnal, qui répondait à Julien Langlais sur France Info. Qui sont les suspects après la mort du militant identitaire Quentin Derenck, passé à tabac à Lyon? 5 personnes ont été identifiées. On va faire le point sur l'enquête dans un instant.
France Info. 5h-6h.
À 6h moins le quart, c'est l'heure de l'info en une minute avec Maureen Suignard et à la une, 3 départements qui sont encore en rouge sur la carte Météo France.
Le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne en vigilance maximale face au risque de crue. Et 12 départements d'une moitié ouest de la France sont aussi en orange. Des débordements importants et majeurs sont en cours ou attendus dans les prochaines 24 heures, avertit l'Institut Vigicru. L'enquête avance après la mort ce week-end de Quentin Derenck, le militant nationaliste frappé très violemment à Lyon. La police a identifié 5 des 6 suspects. Certains ont appartenu à la Jeune Garde, le groupe antifasciste dissous en juin dernier. Emmanuel Macron est arrivé en Inde. Visite du président à l'occasion du sommet de New Delhi sur l'intelligence artificielle. Le chef de l'État entend aussi boucler la vente de 114 chasseurs Rafale. Les hockeyeurs français n'ont pas le droit à l'erreur ce midi après 3 défaites en 3 matchs. Les Bleus affrontent l'Allemagne pour une place en quart de finale des Jeux Olympiques de Milan Cortina. À suivre aussi sur France Info le biathlon dès 14h30 avec une chance de médaille française sur un relais homme.
France Info.
Que s'est-il passé exactement? Qui a porté les coups? Qui a tué? L'enquête doit répondre à ces questions après la mort du militant nationaliste Quentin Derenck à Lyon jeudi dernier. Des images montrent des individus frapper la victime au sol. Des témoins ont d'ailleurs pointé du doigt un groupe d'antifa venu en découdre avec des militants identitaires en marge d'une conférence de l'élu insoumise Rima Hassan organisée à Sciences Po Lyon. Bonjour Pierre de Cossette.
Bonjour.
Qui a tué? On doit avoir une réponse à cette question car la justice parle désormais d'un meurtre.
Oui, les lignes ont bougé et c'est l'enquête qui en a convaincu le procureur de Lyon. Jusque-là, on parlait de coups mortels, pas d'intention de tuer, mais après l'autopsie hier du corps de Quentin Derenck, l'analyse du magistrat a changé. Un traumatisme crânien majeur, le cerveau touché, une fracture à la tempe droite. Ces lésions, pour les médecins légistes, ne laissaient au jeune homme aucune chance de survivre et associées aux vidéos de la scène peuvent témoigner de ce qu'on appelle une intention homicide. Voilà pourquoi les faits sont désormais qualifiés de criminels.
Des auteurs que la police a commencé à identifier.
C'est ça. Alors d'après le procureur de Lyon, ils sont au moins 6 à s'être acharnés sur Quentin Derenck, jeté par terre et isolé de ses camarades qui étaient parvenus à prendre la fuite. La scène a été filmée notamment par un riverain. Eh bien, les enquêteurs pensent avoir identifié 5 de ces 6 auteurs au minimum, déjà connus de la police, et parmi lesquels plusieurs ont été fichés S pour avoir appartenu à la Jeune Garde, ce groupe antifasciste dissous l'été dernier. Le procureur hier se bornait à dire que les identifications étaient en cours pour mettre des noms sur la 20aine d'individus masqués et encagoulés qui, selon ses mots, ont violemment pris à partie le groupe de militants nationalistes auquel appartenait la victime. On comprend que les investigations des enquêteurs ont sérieusement avancé.
Et merci beaucoup Pierre de Cossette du service police-justice de France Info. Il est 5h47 et c'est l'heure du choix de France Info. Comment lutter contre l'insécurité aux Antilles? Journée spéciale aujourd'hui sur notre antenne alors qu'un nombre record d'homicides a été battu l'an dernier dans la zone. Souvent en lien avec le narcotrafic, mais pas seulement. Parfois des vols à main armée, des violences conjugales, des rivalités amoureuses et parfois pour une voiture mal garée ou un simple regard. Bonjour Yannick Falt.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu pour le choix de France Info en Guadeloupe où la violence flambe. Le taux d'homicide y est 2 fois plus important qu'à Marseille.
Oui, avec 52 morts l'an dernier, 1 par semaine en moyenne, le taux d'homicide en Guadeloupe est près de 9 fois plus important qu'au niveau national. Seule la Guyane bat ce triste record. Parmi ces 52 victimes, Kimaël, 16 ans, poignardé il y a un an en plein centre de Pointe-à-Pitre, en marge du carnaval. J'ai rencontré sa maman, Brigitte Wicked, aux Abîmes, commune qui concentre un tiers des homicides.
Ils étaient 5 ou 6, hein, les amis de mon fils. Mais la personne qui était visée, c'était lui. Parce que même un de ses amis s'est planqué sous une bagnole, c'est mon fils qu'on visait. Ils se sont jetés sur lui, ils l'ont poignardé, il a rampé, et il s'est rendu juste en face à un magasin de chicha qui s'appelle Smoke. Et ils l'ont poursuivi. Hein. Si le propriétaire n'avait pas baissé les rideaux, ils étaient vraiment acharnés sur lui. Il voulait en finir avec mon fils, malheureusement.
L'enquête est toujours en cours et aujourd'hui, Brigitte, qui vit seule avec son deuxième fils de 7 ans, attend des arrestations et un procès.
Je ne pourrai jamais faire de deuil tant que je ne vais pas entendre que ces gars-là sont arrêtés. Quand je dis ces gars-là, je précise, c'est des jeunes entre 14 et pas plus que 19 ans. Ils sont toujours en liberté et continuent de sévir. Un an plus tard, je reste toujours en colère. Je sais que je ne reverrai plus mon fils. Mais pour moi, justice doit être faite comme il se doit.
Justice, mais pas de vengeance. Brigitte lance un appel à l'arrêt des violences face à la souffrance des familles.
Et on l'entendait, Yannick, cette maman, elle souligne l'âge des suspects jeunes et même de plus en plus jeunes.
Effectivement, avec souvent des mineurs impliqués, l'an dernier, le plus jeune suspect et la plus jeune victime avaient le même âge, 13 ans. Caroline Calbeau est la procureure de Pointe-à-Pitre.
Tous les mardis, ici, à Pointe-à-Pitre, se tient un tribunal pour enfants qui dure souvent de 9h à 22h, où sont jugés des très jeunes mineurs par moment, entre 13 et 17 ans, qui ont commis notamment des vols avec armes. Il y en a aussi beaucoup qui sont armés, qui n'hésitent pas à s'en servir. Je pense notamment à un jeune qui a tué son copain en manipulant une arme. On a aussi un jeune de 13 ans qui était impliqué dans des trafics d'armes ou d'autres qui se filment en train de manipuler des armes de poing. On a beaucoup de 13-17 ans, auteurs de braquages, mais aussi de tentatives de meurtre.
Des meurtres parfois à répétition, à l'image du 27 mai l'an dernier, trois homicides en ce jour férié pour commémorer l'abolition de l'esclavage.
Voir encore la souffrance de la famille qui est autour, sentir cette odeur du sang, voir ces regards qui cherchent des réponses dans les nôtres en disant « mais j'espère que vous arriverez à trouver qui a commis ces faits-là ». Et vous voyez, trois fois de suite en moins de 24 heures. Ça, c'est vrai que c'est assez marquant parce qu'on se rend compte finalement de cette violence qui traverse la société et qui est exacerbée.
Et cette violence, Yannick, elle conduit même le personnel hospitalier à se former à la médecine de guerre.
Oui, car il y a les homicides, mais aussi les tentatives d'homicide dont le nombre a doublé en 2 ans, 225 l'an dernier, et les blessures qu'elles engendrent. Direction le CHU de Pointe-à-Pitre, où nous reçoit Patrick Portekop, le chef du SAMU.
Dans les années 90, nous avions essentiellement des victimes d'armes de chasse qui occasionnaient des gerbes de plomb avec des plaies superficielles qui étaient rarement létales. Nous avons vu évoluer ces blessures avec l'apparition des armes de poing et de calibre 9 mm qui étaient responsables de blessures souvent mortelles ou beaucoup plus vulnérantes. Et puis, depuis l'apparition d'une circulation accrue d'armes de guerre, des patients qui sont victimes de rafales d'armes automatiques présentent parfois de multiples blessures au niveau essentiellement thorax-abdomen et au niveau de la tête. Et ce sont des blessures souvent létales. Et quand elles ne le sont pas, elles sont responsables de traumatismes et de handicaps sérieux.
Ces armes, elles affluent sur la Guadeloupe en provenance notamment d'Haïti puis de la Dominique, souvent sur des bateaux de pêche, des pistolets américains ou brésiliens qui s'achètent entre 1 000 et 3 000 euros et donc aussi des fusils d'assaut qui se négocient dans les 5 000 euros. Des armes qui fascinent des jeunes, souvent désœuvrés, biberonnés aux séries ultra-violentes et aux gangsta rap.
Et les vols à main armée se multiplient. Vous avez pu suivre, Yannick, des gendarmes qui luttent contre les braquages.
Et nous voilà avec le PIGR, le peloton d'intervention de la garde républicaine, des gendarmes lourdement armés qui se déplacent en pick-up pour une opération en soirée dans des quartiers sensibles et un briefing assuré par l'adjudant Mathieu.
Le terrain est favorable au niveau de Sainte-Rose et défavorable au niveau de la résidence Cachemire. D'accord, c'est leur terrain, il est perméable de toutes parts, la fuite est facile pour eux. N'oubliez pas qu'au niveau de l'armement, il y a beaucoup d'armements qui circulent sur la Guadeloupe et notamment la personne que l'on vise est très souvent armée.
Allez, pour tous en avant.
La cible du jour, un homme recherché pour braquage.
Allez, top action pour tous.
Le suspect n'est pas à son domicile ce soir-là, mais les opérations comme celle-ci, il y en a au moins une par semaine, dans le cadre d'enquêtes menées par une nouvelle unité, la BRACO, la Brigade de répression des armes et du crime organisé. La capitaine Marie Nuchet en est la chef.
C'est des équipes de 2, 3, voire 4 individus qui menacent avec leurs armes les victimes en essayant de leur soustraire soit leurs bijoux, soit leur téléphone, soit leur argent liquide. On est dans un usage complètement décomplexé. Il y a une banalisation de la mort. C'est comme aller voler des bonbons chez le boulanger. Là, on va braquer des gens sur le territoire guadeloupéen.
Des braquages qui augmentent en raison notamment de l'attrait pour les bijoux en or. Avec le cours qui flambe, il y a eu plus de 500 vols à main armée l'an dernier, entre 1 et 2 par jour en moyenne.
Et beaucoup des interlocuteurs que vous avez rencontrés estiment que l'État ne prend pas la mesure de la situation.
Oui, c'est le cas notamment de Sandra Adonis-Navarin. Elle est avocate pénaliste et gère une quinzaine de dossiers d'homicides.
La Guadeloupe est petite. Vous avez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a quelqu'un de sa famille, qui soit victime de ce type de dossier. Si vous avez de la chance, vous vous en sortez avec des blessures. Si vous avez vraiment pas de chance, effectivement, ben, votre famille, elle vous enterre, tout simplement. Je suis désolée de le dire, mais la situation est hors de contrôle. Et j'aimerais surtout pas qu'on m'appelle pour me dire que l'un des miens se soit retrouvé à être abattu parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Ce n'est pas en organisant des opérations coup de poing de temps en temps que les choses avancent. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'État regarde la réalité en face et mette les moyens en place.
Et parmi les problèmes à régler, le nombre d'armes en circulation en Guadeloupe, 40 000 selon le préfet, une arme pour 10 habitants.
Merci beaucoup Yannick Falt, service police-justice de France Info, pour le choix de ce 17 février. Charles Aznavour, superstar aux States, ce sera dans la playlist de France Info après l'actu écho d'Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Actualité économique résumée en trois titres. On commence, Emmanuel, avec le nombre de fraudes téléphoniques qui s'envolent en France.
Oui, selon son dernier rapport, l'autorité de régulation des télécoms, l'ARCEP, a reçu l'année dernière pas moins de 12 000 alertes liées à des appels et des messages non sollicités ou abusifs. C'est une hausse de 113% sur un an. Selon le même document de l'ARCEP, 43% des consommateurs interrogés déclarent avoir été victimes d'usurpation de numéros au moins une fois au cours des trois derniers mois. Signe que la loi Naegelen encadrant le démarchage téléphonique n'est pas respectée par l'ensemble des opérateurs.
Le plan d'épargne retraite atteint lui aussi des sommets.
Oui, près de 13 millions de Français ont souscrit à un PER l'an dernier. Cet outil de la retraite par capitalisation atteint un montant global d'argent placé de 141 milliards d'euros selon le ministère de l'Économie et des Finances. 141 milliards d'euros sur le PER au total, cela représente une progression de près de 20% sur un an. Les plans d'épargne retraite individuels représentent notamment 82 milliards d'euros d'encours, les PER collectifs d'entreprise, 32 milliards.
La journée s'annonce tendue pour le groupe Nestlé.
Et en l'occurrence pour son nouveau patron, Philippe Navratil, qui va être sous forte tension pour la présentation des résultats annuels du groupe. Arrivé à la tête de l'entreprise en septembre dernier, le PDG prévoit également de faire un point sur la stratégie du géant de l'agroalimentaire en pleine crise autour du rappel massif des laits pour nourrissons.
Emmanuel, on prend rendez-vous avec vous dans une demi-heure pour votre brief éco sur France Info.
L'inventeur des Capla, le célèbre jeu de construction à base de petites planchettes de bois, est décédé. Avec la disparition de Tom van der Bruggen vendredi dernier à Nice, c'est une page qui se tourne pour des générations d'enfants et de parents, il faut bien le dire. Mais le jeu poursuit sur sa lancée. Fabriqué en France, il est vendu aujourd'hui dans le monde entier.
Et oui, les Capla, c'est toute notre enfance. Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h56, c'est l'heure de votre playlist Maureen Suignard. Et ce matin, un grand homme de la chanson française qui fait de nouveau parler de lui.
Charles Aznavour qui nous a quittés en 2018 et c'est bien sûr l'un de ses plus grands morceaux que l'on entend, Hier encore, dont le 45 tours est sorti en 1964. Six décennies plus tard, le titre fait encore partie de la culture populaire et il continue même de vivre de manière très active. Depuis une grosse semaine, il a enregistré plus de 15% d'écoutes supplémentaires sur Spotify. Ce n'est pas Charles Aznavour, mais Bad Bunny que vous entendez, le chanteur portoricain qui a fait le spectacle de la mi-temps du Super Bowl aux États-Unis. Bad Bunny qui a samplé la musique d'Aznavour, c'est-à-dire qu'il a utilisé un extrait sonore pour l'incorporer dans une nouvelle musique. Et visiblement, ça a plu aux Américains qui ont découvert ou sont retombés amoureux de ce morceau d'origine. Deux jours après le Super Bowl, le nombre d'écoutes d'Hier encore a bondi de 84% aux États-Unis. Et ce n'est pas la seule musique d'Aznavour qui s'est offert une deuxième vie, William. Parce que tu crois. Là, il s'agit du titre « Parce que tu crois » et en 1999, il est devenu ça. What's the difference between me and you? What's the difference? Titre des rappeurs américains Dr. Dre, Eminem et Exhibit qui comptabilise aujourd'hui 557 millions d'écoutes uniquement sur Spotify. Les rappeurs français sont aussi très friands d'Aznavour pour leur instru. Les mélodies sont fortes, les tempos sont parfaits pour ce style de musique. Gizmo, les psychiatres de la rime, Passy, la Funky Family ou encore Ideal J ont pioché dans le répertoire du chanteur. Éviter de ricaner, on est des déshérités. Le trafic d'influence a pas toujours vous profiter.
inégalité, fréquente fatalité.
Et visiblement, Charles Aznavour ne disait pas non au monde du rap. Je ne veux pas être étranger à ce qui se passe dans le monde de la musique, disait-il à notre collègue Bertrand Dical avant sa mort. J'ai horreur de passer pour un vieux con.
Si j'avais pas eu la chance d'avoir une passion dans la vie, je sais pas où je serais aujourd'hui, mais tout était écrit. Moi, c'est le où le courage ils font vraiment pétrir.
Là c'est Sniper que l'on entend, et en 2008, Charles Aznavour avait même posé sa voix sur un morceau du rappeur Kerry James.
Et oui, il avait tous les talents, Charles Aznavour. Merci beaucoup, tout comme vous, hein, chère Maureen Suignard. C'est l'heure de la météo. Christine Peña, il me semble que la météo serait moins pénible au soleil, mais petite vrai. Amélioration.
Oui, petite amélioration, le temps s'arrange un tout petit peu. Alors c'est vrai, au nord, avec de belles éclaircies qui arriveront à s'imposer jusqu'à ce soir. Un temps qui redevient sec. Des Hauts-de-France à Paris, la Normandie jusqu'au centre Val-de-Loire, même la Champagne. Sur le sud-est aussi, hein, le soleil résiste avec du vent cette fois. Et entre les deux, on a encore des nuages qui resteront nombreux. Quelques averses, elles seront peu nombreuses. On aura quelques éclaircies. Merci. À l'ouest, de nouveau, en revanche, les nuages seront de plus en plus compacts. C'est l'approche d'une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne. Les pluies seront un peu plus soutenues et continuent sur la Bretagne dès cet après-midi, les Pays de la Loire. Et puis tout l'ouest du pays, de nouveau, avec le vent qui se renforcera dans les prochaines heures. Donc on profite de cette petite accalmie avec des températures, somme toute, proches des valeurs de saison. Alors on n'a pas de gelée, mais on a 3 Aurillac, 4 du côté de Nancy, 7 à Paris, comme à Nantes, comme à Rennes, à Lyon, 11 à Biarritz, 13 du côté d'Ajaccio. Et cet après-midi, on ira de 7 à Lille à 18, de nouveau à Nice-Sébastien.
Merci Christine Peña. Hier encore, il présentait le 6-9 de France Info et désormais, il est de retour. C'est Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Formidable, vraiment. William Gay-Costa qu'on va retrouver tout à l'heure à 7h pour le journal.